Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai été absent quelques semaines. Vous m'avez manqué. On va reprendre cette série de la famille de Jésus. C'est une série un peu thématique que l'on veut aussi un peu théologique pour aborder certains sujets. Et ce matin, mon collègue Samuel m'a demandé de prêcher sur Marie, la mère de Dieu. Restez encore un peu. Je vous invite à chercher dans votre Bible l'évangile de Jean. Et puis, vous avez remarqué quand même, il y a un petit point d'interrogation. Mais on va lever ou pas ce point dans un instant. Jean, chapitre 19. J'aimerais vous faire la lecture des versets 25 à 30. Jean, chapitre 19. Versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre de la croix. Te prions ce matin que tu nous aides à la comprendre, à ouvrir notre cœur, notre intelligence à cette parole et que par ton esprit, tu la portes au fond de nos cœurs pour qu'elle puisse porter un fruit abondant par Jésus-Christ. Amen. En général, la formule Marie, mère de Dieu, ça échauffe un peu les oreilles protestantes et évangéliques, parce qu'on se dit, voilà une formule bien catholique que nous ne pouvons pas employer, pensons-nous. Mais d'où vient cette formule? Que signifie-t-elle? Et donne-t-elle à Marie un statut que seuls les catholiques peuvent accepter? C'est une question qui a été débattue il y a longtemps, dans les premiers siècles, notamment dans le 4e et 5e siècle, et un concile de l'Église a été réuni en 451, le concile de Chalcédoine, et qui a confirmé dans sa déclaration ce titre « Mère de Dieu ». Et l'enjeu qui est ici dévoilé dans cette formule n'est pas tant l'identité de Marie, mais l'identité de Jésus. De Christ. Refuser le titre « Mère de Dieu » à Marie, ça n'est pas diminuer le statut de Marie, mais diminuer le statut de Christ. C'est refuser la nature divine à l'homme Jésus, refusant l'union des natures divines et humaines en l'unique personne du Christ. Quand nous disons « Marie, Mère de Dieu », nous ne nions pas la préexistence du Fils éternel de Dieu. Mais nous confessons la divinité de l'enfant né de Marie. Lorsque Marie rend visite à Élisabeth plusieurs mois avant la naissance de Jésus, cette dernière dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vient auprès de moi ?» Quand elle emploie le mot « Seigneur », elle emploie, Seigneur, c'est curieux en grec, et ça peut signifier maître humain, ou ça peut signifier Dieu. Parfois c'est traduit l'un ou l'autre. Mais ici, elle ne l'appelle pas maître, ça ne peut pas. Il n'est pas encore né. Ça veut dire qu'elle emploie le mot dans la force, dans sa manière la plus forte, dans son sens le plus fort, c'est-à-dire Dieu. Ça signifie qu'elle est en train de dire, comment ai-je mérité l'honneur que la mère du Seigneur, Dieu lui-même, vienne me voir ? Ainsi, Marie n'est pas la mère de la nature humaine de Christ seulement, elle est mère d'une personne, celle du Verbe, celle du Verbe éternel qui était auprès de Dieu et qui s'est fait chair. Bouclez vos ceintures là, on va... Il existe dans le langage théologique une expression qu'on dit la communication des idiomes. La communication des idiomes, elle définit l'interaction entre les deux natures au sein de l'union hypostatique, à vos souhaits. C'est-à-dire, l'union hypostatique, c'est la manière de parler de l'union des natures humaines et divines du Christ en une seule personne. Et c'est le sujet de ce matin. Ces deux natures, tout en étant distinctes, comportent chacune des attributs et des particularités qui s'appliquent de l'une à l'autre. En d'autres termes, il est possible, comme Paul le fait, d'attribuer à chaque nature du Christ ce qui relève d'une de ses natures. Un exemple, pour essayer de faire comprendre, Paul parle dans l'ancien, aux anciens d'Éphèse et il leur dit « PC ». Le troupeau de Dieu, l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de sang. OK ? Mais parce que Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, qu'il a pris forme humaine, et qu'il a pris un corps, on peut parler du sang de Dieu. Et c'est la seule chose que Paul fait ici. Et de cette même manière, c'est pourquoi on peut parler de Marie, mère de Dieu. Parce que l'enfant qu'elle portait dans son sein est Dieu. Marie n'a pas engendré le Dieu éternel. Comment elle le pourrait ? Elle est créature, non pas créateur. Mais elle est bien la mère du Dieu homme. Dans le ventre de Marie ne se trouve pas un simple homme qui serait conçu du Saint-Esprit, mais le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme dès sa conception. Peut-être vous vous dites, bon, beaucoup de théologie ce matin, quel est l'intérêt d'évoquer ces questions théologiques anciennes sur les deux natures du Christ ? On vient de chanter à l'instant que partout dans le monde, des âmes meurent sans la connaissance du Sauveur dans leur péché et ne jouiront jamais d'une communion éternelle avec lui. Mais c'est précisément parce qu'on ne peut pas jouir d'une communion éternelle avec lui si on n'a pas été racheté. Et pour pouvoir être racheté par Christ, il faut que Christ soit pleinement homme et pleinement Dieu, dans la même personne. Dans notre passage en Jean 19, c'est ce que l'on voit. Jésus prend soin de sa mère. Mais celui qui est sur la croix, il est omniscient, il sait que toutes choses se sont accomplies. Il est pleinement Dieu. Donc c'est le Fils homme et Dieu qui parle à sa mère. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Comment Jésus est-il pleinement Dieu et pleinement homme ? Nos jeunes ont très bien abordé cette question la semaine dernière. J'en repasse une couche, si vous me permettez. D'abord, par sa naissance virginale. La naissance virginale fait que Jésus soit né d'une femme vierge. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour faire venir son Fils dans le monde en tant qu'homme. Si on réfléchit un instant à d'autres façons dont Dieu aurait pu venir sur terre, aucune d'elles n'aurait uni aussi clairement l'humanité et la divinité de Jésus-Christ en une seule personne. Par exemple, Dieu aurait probablement pu donner à Jésus dans le ciel l'aspect d'un homme et puis l'aurait envoyé sur terre. Mais alors, nous aurions eu du mal à concevoir que Jésus-Christ était homme, pleinement homme. Il n'aurait pas été descendant de la lignée d'Adam, comme nous le sommes. D'autre part, Dieu aurait probablement pu faire en sorte que Jésus vienne au monde le plus naturellement possible, avec un père et une mère humaine, et puis à sa naissance, quelque temps après, où il aurait pu donner sa nature divine. Oui, mais là, on aurait eu du mal à concevoir que le Christ est pleinement Dieu. Vous voyez, on comprend pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a voulu qu'il y ait combinaison des deux influences humaines et divines dans la naissance du Christ. C'est afin que sa pleine humanité soit évidente pour nous, du fait de sa naissance humaine ordinaire, si on peut dire, à partir d'une mère humaine, et que sa pleine divinité soit aussi évidente pour nous du fait de sa conception dans le sein de Marie par l'œuvre puissante du Saint-Esprit. La deuxième chose, comment Jésus est-il pleinement Dieu et pleinement homme, mais par sa nature humaine, mais sans péché. Jésus avait un corps humain, semblable au nôtre. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu la soif. Il avait également une âme humaine. Et du coup, il a pu éprouver tout ce que nous éprouvons. La gamme complète de nos émotions humaines. Il a été rempli d'admiration devant la foi d'un centurion. Il a pleuré de chagrin à la mort de son ami Lazare. Il a connu l'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans jamais commettre de péché. Et la naissance virginale rend également possible justement cette vraie humanité du Christ sans péché hérité. Jésus ne descend pas d'Adam exactement de la même manière que tous les autres êtres humains. Il est exempt de la corruption morale qui nous affecte tous. On pourrait s'interroger, mais alors pourquoi est-ce que Jésus n'a pas hérité la nature pécheresse de Marie ? C'est vrai, on peut se poser la question. D'ailleurs, les catholiques, pour y répondre, ils ont dit « Ah, mais c'est que Marie, elle est sainte, c'est-à-dire qu'elle est sans péché. » Aucun élément des Écritures ne nous permet de dire une chose comme cela. Au contraire, les Écritures disent tout le contraire. Elle s'est réjouie en Dieu, son Sauveur. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est son propre témoignage. Si elle a besoin d'un Sauveur, c'est qu'elle était perdue. Et pour être perdue, il faut être pécheur. Et c'est ce qu'elle confesse. Alors comment est-ce que la nature pécheresse de Marie n'a pas été transmise à Christ ? Eh bien, il semble que le Saint-Esprit, en venant sur Marie, l'ait protégée et protégé Christ de la corruption de Marie, ou ait empêché la corruption du péché. Si Marie est sainte, elle l'est au même titre que nous. Elle a été déclarée sainte par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, mais elle n'est pas sans péché. D'ailleurs, si on dit qu'elle est sans péché, on pourrait se poser la même question. Pourquoi est-ce que Marie n'a pas hérité du péché de sa mère ? Vous me suivez ? Et donc, on a juste fait que décaler le problème d'une génération. Et après, bon, on s'en finit pas. Non, ça tient pas. Mais non seulement c'est contraire aux Écritures, mais aussi, c'est de toute manière pas son témoignage. Christ est le seul saint enfant qui soit né, saint dans toute sa personne, aucun péché, aucune prise sur lui. Satan a eu beau tenter Jésus dans le désert, il n'a pas réussi à le persuader de péché. Au contraire, il a mené la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Pilate n'a trouvé aucune raison de le condamner. L'accusation qui a été retenue contre Jésus, c'était qu'il était le Fils de Dieu. Et quand Pilate a entendu cela, il a été encore plus effrayé. C'est-à-dire qu'il commençait à comprendre qu'il était Dieu. Il est appelé le Saint, le Juste, le Père, d'y trouver en lui tout son plaisir, parce que le Fils fait toujours ce qui lui est agréable. Il est l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tâche. Il est l'innocent mort pour des coupables. Christ était parfaitement juste, de sorte qu'il pouvait payer pour des coupables. Si vous mourrez aujourd'hui dans vos péchés, c'est parce que vous n'avez pas saisi l'œuvre du seul qui puisse vous sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ, le seul juste qui y ait été. Et si vous oubliez toutes mes paroles ce matin, retenez juste celle-là. Dans votre détresse, le seul juste qui soit, le Dieu éternel, s'est livré à votre place pour que vous puissiez être pardonné de toutes vos fautes et vous offrir une vie nouvelle et une vie éternelle. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme ? J'ai l'impression d'avoir déjà un peu répondu. Mais il fallait qu'il soit pleinement Dieu parce que le salut vient de l'Éternel. C'est ce que nous dit Jonas, chapitre 2, verset 10. Et c'est le verset qui est sur notre façade. Il fallait aussi qu'il soit pleinement homme pour nous représenter et obéir parfaitement là où Adam, lui, avait échoué et désobéi. D'ailleurs, Jésus est appelé le dernier Adam, offrant une nouvelle humanité. Il fallait aussi qu'il soit pleinement homme pour mourir pour des hommes. S'il avait voulu sauver les anges, il aurait dû se faire ange. Mais il a pris corps et âme humaine pour pouvoir sauver des hommes que nous sommes. Et c'est ce que dit Hébreu. Mais c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, les hommes. Et il fallait qu'il soit Dieu infini pour payer une dette éternelle pour tous ceux qui croiraient. Il fallait qu'il soit homme pour compatir pleinement avec nous dans nos faiblesses. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il fallait qu'il soit Dieu pour que nous obtenions miséricorde et trouvions grâce auprès de lui. Pour être secouru dans tous nos besoins. Oui, il fallait qu'il soit homme pour nous comprendre, pour comprendre nos tentations. Mais il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir nous en délivrer, pour pouvoir nous en secourir, pour répondre à nos prières. Il fallait qu'il soit homme pour être un modèle pour nous et pour que nous cherchions à lui ressembler tous les jours de notre vie. Et il fallait qu'il soit pleinement homme et pleinement Dieu à la fois, pour être aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pour nous ramener à Dieu et pour nous révéler Dieu le plus clairement. En Jean 19, Jésus pleinement homme, avec un corps et une âme d'homme, et pleinement Dieu, est crucifié. Ces deux natures sont distinctes et pourtant inséparables. Siméon avait annoncé à Marie, lors de la présentation de Jésus au temple, il lui avait dit « Une épée te transpercera l'âme. » Elle vient avec son bébé. Et voilà ce qu'elle entend. Et aujourd'hui, c'est là. Une épée transperce l'âme de Marie. Elle voit son fils bien-aimé sur une croix, déchiré par la souffrance, rejeté par les hommes. Et c'est pourtant lui qui manifeste une compassion extraordinaire envers sa mère, qu'il confie aux soins de son disciple Jean. Le contraste est saisissant si vous regardez le contexte avec les soldats. Les soldats sont indifférents, ils sont en train de tirer au sort sa tunique, ils se répartissent les vêtements des crucifiés. Ils ne comprennent ni ne regardent à celui qui est crucifié pour eux. Lui, il prie et il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Plusieurs exégètes ont pensé que Jean est le cousin de Jésus. Jean, le disciple, serait le cousin de Jésus. C'est possible parce qu'il ne cite pas son nom. Il ne cite, dans tout l'évangile, il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Et donc, pourquoi est-ce qu'il l'aimait? Mais probablement parce qu'il y avait cette relation charnelle, hein, de cousinage. Et puis, il ne cite jamais le prénom de son frère, Jacques, dans son évangile, parce que aussi c'est la famille. Et puis, il ne donnerait pas le prénom de sa mère, hein, qui est la sœur, qui serait la sœur ici de Marie, sa mère. Ça expliquerait aussi les raisons pour lesquelles il y avait cette affection particulière entre Jacques et Jean et puis Jésus. Et ça expliquerait aussi pourquoi Jésus confie sa mère aux soins de son disciple Jean. Et c'est touchant, cet attachement de Christ ici à sa mère et aux soins qu'il lui donne. Après cela, le texte dit que Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture soit accomplie. J'ai soif. C'est-à-dire, Jésus, il est omniscient. Il sait que tout a été accompli. Toutes les prophéties le concernant sur sa première venue ont été accomplies. Sauf une. Dans le psaume 69, verset 22, la Bible dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Alors Jésus dit « J'ai soif. » Il sait qu'il va inciter les soldats à lui donner à boire. Bien entendu, les soldats ne comprennent pas qu'ils sont en train d'accomplir une prophétie, la dernière prophétie concernant Christ. Ils n'ont probablement pas compassion, ou peut-être qu'ils ont compassion, et puis que toujours est-il qu'ils plongent une éponge dans un vase plein de vinaigre. Le vinaigre ici, c'est une piquette qui est rallongée, et dont les soldats boivent. Il la fixe à une branche et il l'approche de la bouche de Jésus. Ayant pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Tout est accompli, c'est en grec, c'est un seul mot, « tétélestai ». Je ne veux pas faire ma science aujourd'hui, mais ce mot, il est tellement important, c'est que ça signifie « Tout est payé. » Tout est fait. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit pour goûter au pardon de vos péchés. La seule chose que vous puissiez faire, c'est placer votre confiance dans ce qui vient de se passer là, à la croix. Christ, le juste, homme et Dieu, mourant à votre place, payant la dette éternelle de vos péchés. Tout est accompli. Tous nos péchés ont été expiés. La justice de Dieu est satisfaite. Les prophéties sont accomplies. Par conséquent, Jésus baisse la tête et rend l'esprit. Là encore, puissant témoignage de sa divinité. Aucun homme ne peut rendre son esprit. Jésus le fait. Il rend son esprit. Vous avez remarqué qu'il crie « J'ai soif ». Tout est accompli. Il parle juste l'instant d'avant avec sa mère et son disciple. Quand on meurt crucifié, on meurt asphyxié, ne pouvant plus sortir un seul mot. Jésus n'était pas encore au seuil de la mort physiquement. Mais il rend son esprit. C'est-à-dire, il dit, je donne ma vie. Personne ne me prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et là, il donne sa vie pour nous. D'ailleurs, c'est ce qui est mentionné encore dans les évangiles. Le fait qu'il meure si rapidement a étonné Pilate. Ils ont dit, mais comment est-ce que Pilate a pu... comment est-ce que cet homme est déjà mort? Et il a voulu s'assurer véritablement qu'il était vraiment mort. On est allé casser les jambes aux deux autres crucifiés à ses côtés. Mais pour Jésus, on ne lui a pas cassé le moindre os parce qu'il était déjà mort. Et simplement pour s'assurer, on lui a percé le côté en plein cœur. Il était mort parce qu'il venait de donner sa vie. Tout cela révèle que Christ est pleinement Dieu et pleinement homme et qu'il a pu payer pour nous. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout. Ça change qu'on peut être parfaitement sauvé. Des hommes pécheurs tels que nous peuvent vivre éternellement dans la communion du Dieu trois fois saint. Parce que Jésus, homme et Dieu, a payé à notre place. Il a satisfait la justice de Dieu pour nous. Vous savez, cette union hypostatique-là, cette incarnation, c'est tellement difficile à comprendre. 100% homme, comme disaient les jeunes, 100% Dieu. Notre intelligence a du mal à concevoir ça, non ? Ça dépasse notre entendement, mais c'est cohérent. Elle porte, cette vérité porte en elle-même les fondements pour notre salut. C'est le seul moyen pour que Dieu soit, pour que nous ayons un médiateur. Il fallait qu'il soit pleinement Dieu, pleinement homme, prenant la main de Dieu, prenant la main des hommes, réconciliant, nous réconciliant au travers de ça, de l'offrande de sa vie. À la croix. Il a dit, et on l'a chanté, je crois, « Nul ne vient au Père que par moi. » Le seul chemin qui nous conduise à Christ, à Dieu, c'est Christ. Alors venez, venez à Christ, homme et Dieu, offert en sacrifice pour payer votre dette. Venez simplement, croyez. Deuxième vérité qui devrait tout changer, c'est qu'on peut être compris et secouru. Nous avons quelqu'un qui peut compatir à nos faiblesses, quelqu'un qui peut compatir à nos détresses et quelqu'un qui intercède en notre faveur. À la fin de la Première Guerre mondiale, la plus sanglante, plusieurs poètes anglais ont écrit des œuvres très touchantes sur la barbarie absolue de la guerre. Et l'un d'eux, Édouard Chilitau, a écrit « Jésus au sacrifice, aux cicatrices ». Voilà comment termine ce poème. « Les autres dieux étaient forts, mais toi tu étais faible. Il s'est levé, mais toi tu es descendu du trône. Toutefois, à nos plaies, seules les plaies de Dieu répondent, et aucun Dieu n'a de plaies, sauf toi et toi seul. » Vous savez, quand on est en butte aux affres de l'incertitude, quand la souffrance, quand la douleur règne dans notre vie ou dans notre monde, que nous demandons à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Sans recevoir de réponse. Alors que nous relisons le livre de Job Et on finit les quatre derniers chapitres du livre et nous lisons tout un tas de questions rhétoriques qui nous amènent simplement à conclure. Arrête, Job. Il y a bien des choses que tu ne comprends pas du tout. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il est Dieu et nous ne pouvons pas tout comprendre dans tout ce qui nous arrive. Mais quelle vérité va nous soutenir à ce moment-là? Je souffre, je ne comprends pas pourquoi je souffre et Dieu ne me répond pas. Ou il me dit, laisse, tu ne peux pas comprendre. La seule chose qui va nous soutenir dans nos souffrances à ce moment-là est la suivante. Toutefois, à nos plaies, seules les plaies de Dieu répondent, et aucun Dieu n'a de plaies, sauf toi et toi seul. Souvenez-vous de cela. Le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain qui contrôle toutes choses dans ce monde, dans cet univers, les choses qui nous frappent, qui nous touchent, ce Dieu-là saigne. Ce Dieu-là saigne. Ce Dieu-là souffre. Il comprend votre souffrance. Il comprend les méandres de votre cœur. Il comprend les interrogations de votre âme. Non seulement il les comprend, mais aussi il les contrôle. Aussi, nous pouvons faire confiance à un Dieu qui est non seulement souverain, mais un Dieu qui saigne. Il nous comprend, il nous accompagne dans nos moments difficiles. Enfin, je pense que ça peut nous aider aussi à changer un certain nombre de choses. Ça nous aide à craindre et à adorer. On comprend qu'il y a une personne en Christ, dans la personne de Christ, une dimension qui nous attire, un homme, une âme qui nous comprend, qui peut nous secourir. Et puis, il y a aussi le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. On a un peu cette même pensée que Jean, ce fameux disciple qu'il aimait, il pouvait être appuyé contre son épaule pendant le repas, être tellement proche de Jésus, et puis tomber comme mort devant lui dans l'Apocalypse. En Jésus, il y a ces deux natures. Elles nous poussent à la fois à craindre et puis à adorer. On est à la fois attiré et à la fois émerveillé ou tremblant. Je crois que c'est l'attitude juste qu'il nous faut avoir. Jésus n'est pas un pote, si je peux dire. Mais il est notre ami, il est notre frère, il nous appelle frère, il n'a même pas honte de le faire. Mais il est aussi Dieu, redoutable, juge des vivants et des morts, vers lequel on doit s'approcher avec révérence. Je pense que dans notre vie d'Église, cette connaissance du Dieu-homme devrait équilibrer notre vie d'Église, nos relations, ça devrait impacter toutes nos relations. À la fois, on peut vivre des relations familiales. Dieu est notre Père, Jésus-Christ notre grand frère. C'est pourquoi on cherche à développer ces relations. C'est pourquoi on est capable de se présenter tel que l'on est, pécheur. C'est pour ça qu'on est capable de se demander pardon quand on s'est offensé, quand on a mal fait. Et puis d'être quand même gardé dans la famille. Et on essaye de vivre cela dans toutes nos relations. Mais je pense que c'est particulièrement vrai dans nos réunions de groupes de maison, nos cellules, où on cherche à développer une communion, on partage nos fardeaux, nos luttes, nous jouissons de cette fraternité authentique, sans masque. On peut se dire les choses et prier les uns pour les autres. Et puis, il y a aussi cette grande vérité, c'est que on est le peuple de Dieu, appelé à mener une vie sainte. On a Dieu pour créateur et Jésus-Christ comme Seigneur. Et du coup, dans nos vies doivent aussi exalter célébrer, glorifier, craindre, aimer ce Dieu Tout-Puissant. Nos cultes devraient, on devrait percevoir ça, on devrait se sentir accueilli et puis à la fois émerveillé. On devrait se sentir compris et à la fois secouru. C'est ce que l'on cherche à vivre ensemble. Puis dans ma vie personnelle, peut-être aussi, nous pourrions prier, je devrais peut-être prier Dieu que j'appelle Abba, Père, Papa. Je suis invité à faire ça, à m'approcher de lui avec une pleine intimité, une pleine confiance. Et donc je peux venir avec assurance, délivré de la crainte de la mort, du jugement et de la condamnation, et puis également lui rendre un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que Dieu nous aide à nous nourrir de la personne de Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, pour que nos vies soient le reflet de cette personne et qu'elle le glorifie. Prions aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ont besoin de s'approcher de lui. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons encore pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous révèle un Dieu extraordinaire dont la personne a un aspect incompréhensible, pleinement homme, pleinement Dieu. Mais Seigneur, c'était le seul moyen pour que nous puissions, nous, hommes pécheurs, éloignés de toi à cause de nos fautes, que nous puissions vivre éternellement dans la présence du Dieu trois fois saint, et pourtant sans être consumés par ce feu, mais éclairés, réchauffés, sanctifiés dans ta présence. Et cela, c'est seulement l'œuvre de Christ. Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, nous voulons te louer, Seigneur. Et nous te prions pour que notre Église, nos vies, reflètent un tel Dieu. Puis on prie pour que ceux qui ne te connaissent pas encore s'approchent de ce Dieu. Que l'humanité, le caractère de Christ qui nous attire parce qu'il nous comprend, soit aussi équilibré par ce Dieu qui est saint, qui est le juge des vivants et des morts et qui s'est offert en sacrifice pour nous. On prie pour que beaucoup viennent encore à la connaissance de ce Dieu et on prie pour notre ville de Toulouse en particulier et on prie pour que tu sauves une multitude par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je vous invite à vous lever pour chanter un chant pour clôturer ce temps de culte ensemble.